pour arriver à capter ces innovations sociales et soutenir leur changement d'échelle.
Et demain, les territoires, CIC Banque privée du dirigeant d'entreprise, explore les grands enjeux d'avenir au prisme des territoires, en partenariat avec Uzbek Erika. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Et demain les territoires ». Aujourd'hui, nous allons parler d'innovation et plus particulièrement d'innovation sociale. En effet, si l'innovation technologique est bien souvent au cœur des grands enjeux de réindustrialisation, l'innovation sociale pourrait-elle aussi contribuer à rebattre les cartes de nos économies ? Mais qu'est-ce que cette notion d'innovation sociale englobe très concrètement ? Nous avons posé cette première question à Alice Despéquer, directrice d'ATIS, Association Territoire et Innovation Sociale, qui s'est fixée pour mission d'accompagner l'émergence et le développement des entreprises sociales sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine.
C'est vrai que le concept d'innovation sociale, il peut encore paraître flou ou un terme un peu galvaudé. Mais pour nous, l'innovation sociale, c'est vraiment une réponse nouvelle, un besoin social ou environnemental qui est peu ou mal satisfait, donc non couvert. Et l'innovation sociale, ça consiste à construire ou à imaginer ces solutions, notamment en impliquant les personnes les plus concernées par le problème. Ça peut être les bénéficiaires, les citoyens, les collaborateurs, peu importe, mais qui participent finalement en tant qu'usagers à la construction de cette réponse qui n'existe pas aujourd'hui et pour lequel il est important qu'elle existe pour résoudre finalement ce problème. Ça peut passer par un processus en plusieurs phases, d'ailleurs une phase un peu émergente, expérimentation, prototypage de la solution et puis diffusion de celle-ci et ensuite changement d'échelle. Je peux donner un exemple qui reste à la main des entreprises. Par exemple, un groupe associatif qui propose de travailler avec plutôt les personnes âgées, les personnes fragilisées ou handicapées et qui a développé en fait la gymnastique adaptée et l'activité physique au service des personnes âgées. C'était innovant parce que le sport au service de personnes dont on imagine qu'elles feront plus jamais de sport, c'était une approche finale de la personne âgée et de sa capacité à agir qui était assez importante. Aujourd'hui, c'est un groupe associatif qui existe partout en France et qui a capitalisé sa démarche aussi par des recherches sur l'importance, par exemple, de limiter les chutes quand on est une personne âgée et sur l'impact que ça a en matière de santé et du coup des impacts aussi monétaires puisque quand on a moins de chutes, on a moins recours au système de santé et donc le moindre recours au système de santé fait faire des économies plus globalement à la société et la personne âgée se trouve dans une dynamique plus positif par rapport à son vieillissement.
Soutenir les personnes fragiles, aider à l'inclusion des jeunes, mettre en place des dispositifs destinés à la petite enfance ou favoriser le bien-vivre des habitants d'un territoire. Si les innovations sociales peuvent être très variables d'une problématique à l'autre, elles ont tout en commun la création d'écosystèmes au service d'usagers et la nécessité pour des acteurs d'horizons très différents, entreprises, collectivités, associations, citoyens, de travailler ensemble. On écoute à ce propos Alexis Nollet, cofondateur d'Ulteria, qui réunit dans un même lieu une usine éco-conçue, une école Montessori, une maison éco-citoyenne et une ferme.
Ça nécessite de la coopération, ça nécessite du partage de valeurs. Il y a par exemple, ça vous paraît peut-être un peu trivial, mais il y a une filière dans le Jura qui a réussi à rémunérer de manière juste tout le monde. C'est-à-dire, il n'y a pas le transformateur qui prend toute la marge. Le producteur de lait, il y arrive. La fruitière, elle y arrive. Le distributeur, il y arrive. Tout le monde prend sa part de la valeur. C'est réparti de manière équitable. Pour construire ça, c'est un énorme travail. C'est un énorme travail. C'est long. Donc, à l'échelle du territoire, il y a des choses qui peuvent être menées, qui peuvent être très belles. Néanmoins, ça nécessite de coopérer, ça nécessite de partager et ça nécessite une collaboration souvent des secteurs privés, publics et citoyens. Et c'est tout sauf naturel, ça. Donc, je pense que la solution est à l'échelle du territoire pour plein de raisons, aussi pour les questions de transport, aussi pour les questions de connaissance fine de ce qui est nécessaire ou pas dans le territoire, et puis pour des questions tout simplement humaines, de plaisir de coopérer ensemble. Oui, je pense que l'échelle du territoire, c'est une très très bonne échelle. En tout cas, moi, chez Ultera, c'est celle qui nous intéresse. On essaie d'agir en premier sur notre territoire, changer le monde, très bien, mais on se dit déjà on va changer notre monde, c'est déjà pas mal.
La nécessité donc d'asseoir autour d'une même table des acteurs aux enjeux et à la culture parfois très différents lorsqu'il s'agit d'innovation, mais apprendre aussi à identifier les vrais besoins, avec l'usager au cœur de la réflexion. C'est ce que nous explique Lise Bordeaux-Lepage, professeur en géographie à l'Université Lyon 3 et rattaché au labo EVS du CNRS, spécialiste du bien-être.
Je fais des enquêtes dans la rue. Les gens, des fois, on leur dit, bah voilà, quelle est la première mesure que vous allez prendre pour améliorer la vie dans votre quartier ou votre vie dans votre quartier. Ils ont toujours des idées. Elles sont souvent assez pertinentes et souvent, des fois, les élus n'y ont pas pensé ou les acteurs territoriaux n'y ont pas pensé. Donc voilà, mobiliser, parce qu'en fait, en mobilisant la parole des habitants, on construit des connaissances. Ces connaissances supplémentaires permettent de porter un nouveau regard et d'innover. Et en fait, en mettant autour de la table plusieurs acteurs, finalement, on a une co-construction de connaissances.
Apprendre à construire avec et pour les usagers, un processus long et exigeant pour pouvoir mesurer les bénéfices de l'innovation sociale. Un bénéfice au potentiel très significatif, à la fois pour les citoyens, la compétitivité des territoires et même l'économie du pays. On écoute Élise Despéquer.
Je suis assez persuadée que les acteurs qui sont porteurs d'innovation sociale ont défriché des filières, et ça rejoint mon point sur le changement d'échelle. C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, une entreprise qui travaille la question du réemploi des aides techniques, les aides techniques, c'est tous les fauteuils roulants, les lits médicalisés, etc. Aujourd'hui, il y a besoin de et là aussi, la législation sera importante, c'est d'autoriser la possibilité d'utiliser ces objets en réemploi, donc de les nettoyer, de les remettre sur le marché et de faire en sorte que, parce que si on utilise un fauteuil roulant de réemploi, il est aussi remboursé par la sécurité sociale. Et là, on voit le lien avec la législation. Mais aujourd'hui, ce projet, il a été expérimenté déjà dans plusieurs territoires. Et c'est vrai que c'est en apportant un soutien un peu plus massif qu'on va jouer un rôle. Donc, il faut arriver à capter ces innovations sociales et soutenir leur changement d'échelle, parce que je pense qu'il y a des vrais défricheurs, en fait, de nouvelles filières. Et on l'a vu, par exemple, au moment du Covid, l'ensemble des Fab Labs et des makers se sont mobilisés pour tout d'un coup se remettre à fabriquer des masques et un certain nombre d'objets qui ont été utiles au moment du confinement. Dans ce moment-là, la territorialisation, l'organisation en réseau, la coopération, tout d'un coup, ça a fait qu'on était capable de fabriquer des choses et qu'on était capable de relocaliser, ou en tout cas de faire face. C'est juste que il faut arriver à envisager une façon de voir la réindustrialisation à des échelles très territoriales, que ce soit à l'échelle d'une commune ou à l'échelle d'un territoire un peu plus large.
C'est la fin de cet épisode. Merci à Élise Despéquer, Alexis Nollet et Lise Bourdeau-Lepage d'avoir partagé avec nous leurs idées et leurs réflexions. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Et demain les territoires avec CIC Banque Privée et Usbek Erika.